Pivot, Christophe Zagal.
Poussons les portes cette semaine d'une ferme pédagogique. Laetitia et Carl Villalonga, un jeune couple, ont créé il y a quelque temps la première ferme pédagogique de Haute-Corse, à Dinoud. Un lieu social et éducatif dans un milieu agricole, avec animaux de la ferme qui accueillent tout au long de l'année le grand public, à Borgo, dans la région bastiaise. Nous avons visité pour vous ce lieu convivial et familial. À Dinoud et dans In Vivo sur RCFM.
Voilà, on est chez nous, donc à la ferme à Dinoud. On est au sud de Bastia, sur la commune de Borgo, en périphérie périurbaine. Donc on est vraiment entre le croisement de la zone agricole qui se trouve en plaine orientale et la zone de vie qui se trouve à Bastia. Nous sommes situés plus précisément à proximité du golfe de Borgo. Alors ce projet, il est né des pensées de mon épouse. C'est l'idée et la volonté de mon épouse qui, quand elle était en congé maternité, ne se voyait pas revenir dans un travail standard et a décidé de créer cette ferme. On est passé par plein d'étapes parce que entre le moment où l'idée a germé et où on a ouvert, il y a eu quand même 4 années qui se sont écoulées. On a voulu abandonner ce projet. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouvait pas de terrain, on ne savait pas comment le faire. Ça a été assez délicat. Ça a été assez délicat pour trouver le problème du foncier en Corse, c'est énorme. Donc on a mis quand même déjà 2 ans et demi à trouver un terrain pour pouvoir acheter un terrain agricole. Parce que même en location, on n'arrivait pas à en trouver et on ne voulait pas s'investir énormément en temps et en argent sur du locatif. Comment nous sommes pris ? Nous avons été conseillés de se rapprocher de la SAFER, qui fait un concours pour distribuer des terrains agricoles. Nous avons passé un concours pour obtenir ce terrain. On a été les heureux bénéficiaires. Après, il a fallu trouver les financements. Les financements ont été sur des fonds propres uniquement. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de devenir une association et pas agriculteur. Pourquoi ? Parce que on veut que cette ferme soit ouverte à tous, à des gens qui voudraient s'investir avec nous. Pour le moment, c'est pas encore arrivé, mais on ne désespère toujours pas. Et donc, on a financé avec nos petites économies, avec mon épouse et moi. Après, techniquement parlant, à un moment donné ou un autre, il fallait bien faire rentrer de l'argent à la maison. Donc, ma femme, qui ne voulait pas retourner dans le milieu du travail, a dû bien s'y remédier, et je me suis mis attelé moi aux travaux. Donc la semaine je m'occupe de la ferme, le week-end mon épouse et moi on s'occupe tous les deux de la ferme. Comment on l'a construit ? On a fait une campagne de crowdfunding au départ pour nous aider à lever quelques fonds de départ. Ça a très bien pris quand même, hein, parce qu'on a eu une personne qui nous a fait don du démaquisage du terrain, parce que c'était un terrain à l'abandon. On a eu une partie d'environ 3 ou 4 000 euros, je m'en souviens plus exactement, qui nous a permis d'acheter les premiers éléments. Et puis nous avons continué à investir de par nous-mêmes. Donc on a établi tous les travaux, je me fais aider de ma famille, de mes parents qui sont malheureusement un peu vieillissants, de cousins, cousines, et enfin, mais essentiellement c'est nous, notre famille, hein, notre famille, mon épouse, moi, hein, essentiellement. Donc les travaux, en gros, on a eu, c'est loin d'être terminé, mais on est déjà un an de travaux. Alors vous allez pouvoir trouver 70 animaux répartis sur une dizaine d'espèces, donc les oies, les cochons, les chèvres, les poules, les canards, poneys, ânes, brebis, dindons, lapins. Après, donc ça c'est pour l'entité ferme pédagogique. Après, nous allons commencer là pour le printemps à mettre en cueillette, donc un potager en cueillette, du maraîchage avec des semences paysannes en cueillette. Et tout ça, en fait, le but de cette ferme, c'est de faire découvrir un métier à des jeunes, de recréer des liens sociaux, de permettre un petit peu aux Corses de se rappeler qui ils sont, parce que nous sommes malgré tout un peuple pastoral, et tout ça pour mixité de la ville. Après, on se veut aussi un lieu d'échange, hein. On met en avant le fait de pouvoir venir, de pouvoir passer du temps chez nous et de partager avec les enfants des voisins qu'on ne connaît pas, et de passer un bon moment et un agréable moment ici. Du lundi au vendredi, on travaille exclusivement avec les instituts, ce qui va être, on va toucher à l'autisme, on va toucher à des enfants en rupture sociale, on va toucher à de la primo-délinquance, on va toucher au scolaire aussi, au centre de loisirs comme vous pouvez voir aujourd'hui. Et le week-end et pendant les vacances scolaires, on ouvre et on exclusivement en famille. Donc notre grande frustration qui en passe de ne plus l'être, c'est que nous voulons rendre la ferme accessible aux PMR et plus spécialement, alors les PMR c'est les personnes à mobilité réduite, et plus spécialement aux personnes en fauteuil roulant. Donc pour ceci, on a besoin de construire sur tout le chemin balisé que nous avons emprunté, de construire une terrasse bois pour se relever afin de pouvoir accueillir ces personnes-là. Donc ça y est, on a réussi à lever les fonds et à commander le bois. Les travaux attaquent lundi. On va pouvoir faire 70%, la rendre accessible au PMR sur à peu près 70% du parcours que nous avons prévu. Il est à noter quand même, et c'est important de noter, qu'encore il y a 1900 enfants entre 0 et 19 ans qui sont coincés sur un fauteuil roulant. Mais c'est pas tout, il y a aussi 13 500 adultes. Alors 13 500 adultes, je touche du bois. Je ne suis ni touché ni de près ni de loin par un handicap de ce type. Un accident de la vie peut nous clouer, vous, moi, n'importe qui, sur un fauteuil roulant. Et je trouverais ça inadmissible que ses parents ne puissent pas partager un moment de nature ou un moment de détente, si ce n'est pas un moment de nature, mais un moment de détente avec leurs enfants. Donc c'est une volonté propre. On aurait pu rester comme ça, mais c'est une volonté propre. Et on en fait notre fer de lance de pouvoir rendre cette ferme accessible à tous. Hormis la semaine où c'est uniquement sur réservation, le week-end on est ouvert de 10h à 17h sans réservation. Je fais une visite des enclos comme nous allons faire tout à l'heure d'une manière un peu accélérée, une à 11h et une autre à 15h, qui permettent un peu aux gens de jongler en fonction de l'âge des enfants. Nous adapterons ces horaires pour le mois de juillet et août parce que il fait trop chaud l'après-midi. Donc on ouvrira plus tard le soir et on fera une pause l'après-midi. Mais ça, on n'est pas encore tout à fait fixé. On communiquera sur notre site internet au moment voulu. Vous avez vu, on a un grand espace pique-nique. Le but, c'est que les papas et les mamans viennent, fassent leur pique-nique. Alors on essaye, là, on commence à avoir les beaux jours, donc ça commence à prendre. Mais qu'ils viennent faire un barbecue entre amis, entre frères et sœurs, entre cousins. Et vous savez comment sont les enfants, hein. Le contact vient souvent d'eux, hein. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours un petit copain ou une petite copine pour jouer. Et le petit copain et la petite copine s'invitent à la table et les parents font de suite, suivent le pas. Après, on n'offre rien d'exceptionnel, simplement un lieu de tranquillité. Simplement un lieu de tranquillité et de permettre aux enfants de voir librement et d'approcher de très très près certains animaux. L'envers du décor, il est déjà rythmé par des partenaires, il faut le savoir. Donc nos partenaires, c'est une supérette de Borgo et un marchand de fruits et légumes de Fouriane qui nous mettent de côté et qui ont mis ou pas leurs employés pour nous mettre de côté tout ce qui est périmé. Tout ce qui est donc les légumes, les aliments périmés, qui me permettent de nourrir grandement nos animaux et de démontrer que la gestion de la crise des déchets nous appartient. Donc ça commence, nos journées commencent à être toujours le même rythme. À 8h, je suis là-bas, je récupère mes fruits, mes légumes et les périmés. Donc à Borgo, je viens, je trie, je donne à manger. S'il n'y a pas d'enfants, je donne à manger tout seul, ou sinon j'attends les enfants pour donner à manger. Je vérifie que tous mes animaux vont bien. Il y a toujours quelque chose à réparer, toujours quelque chose à bricoler. Parce qu'il y a beaucoup aussi de travail, mais il y a de l'entretien. Après, suite à ça, l'après-midi, hors période, je dirais estivale, en fin d'après-midi, je vais récupérer les légumes à Fouriane pour le lendemain. Mais aussi, nous avons un autre partenaire qui est un producteur de fruits sur Vescovato, qui nous donne aussi des fruits non calibrés, hein, qui sont destinés à être jetés. Donc en fait, ça rentre tout à fait dans notre concept, c'est-à-dire que nous, vous voyez les trois quarts des berges, enfin toutes les bergeries d'ailleurs sont faites avec des palettes que nous récupérons, que nous dépiotons pour les habiller. En fait, tout ça, c'est pour ça m'embête de voir tout. Vous voyez ce stock de palettes que mon père est en train d'épioter. Tout ça, ça c'est voué pour aller à la déchetterie, alors qu'on peut très bien l'utiliser. Après, on entend tout le monde critiquer la crise des déchets, la gestion de l'exécutif actuel et des exécutifs passés, alors que c'est nous qui avons la solution en nous. Si tous les supermarchés faisaient, alors qu'il y a une loi qui a été votée, hein, qui les oblige d'ailleurs, mais qui n'est pas suivie d'effet, donner à des associations comme la nôtre leurs déchets, ça réduirait énormément nos volumes de déchets. Les volumes de déchets organiques aujourd'hui et encore, ça représente 40% des volumes de déchets. Donc si c'était tout mis sur le compost, hein, on n'est pas obligé de me donner, hein, je ne suis pas Dieu le Père, hein, mais si les déchets soient mis au compostage, soient mis en traitement et en valorisation pour certaines personnes qui le font, je ne veux pas les citer, ou donner à des agriculteurs ou donner à des poules, on réduirait quand même de 40% les déchets globaux. Donc c'est pas négligeable. Le suivi des animaux, nous avons la visite donc une à deux fois par an suivant les besoins d'un vétérinaire qui vient nous faire les prélèvements pour voir si tout va bien et faire notre suivi nous sommes donc tous les animaux sont déclarés auprès de la MSA et de la chambre d'agriculture, donc ils sont tous identifiés par les petites bagues que vous voyez. Alors là, on suit plus particulièrement, nous avons une grosse inquiétude sur les cochons avec l'infestation de peste porcine africaine. Il est à savoir qu'aujourd'hui, apparemment, il n'y en a pas de cas en France, mais la Sardaigne en est très lourdement touchée. Donc ça me ferait beaucoup de mal de devoir me séparer de ces cochons à cause de cette maladie. Donc on les suit de très très près, en espérant que tout aille bien. Les naissances arrivent beaucoup, regardez. Là, c'est imminent. Chez les laits, là, j'ai les deux laits où c'est imminent. Nous avons eu 5 naissances de cabris cette année. Nous avons eu l'année dernière 5 naissances de cochons. Nous avons eu des poussins, des canetons. On n'a pas encore eu de dindes, par contre. Elles sont un peu jeunes, mais ça arrive très régulièrement. Et c'est ce qui fait la beauté. Et c'est aussi... Alors, c'est paradoxal parce que les gens préfèrent venir quand il fait beau au printemps, l'été. Mais au printemps, l'été, il n'y a pas de naissance ou très peu, à part chez quelques volailles. Mais les cabris, par exemple, ils naissent de septembre à mars. Donc c'est le moment où on peut les voir. Les petits cochons, alors là, vont naître là, hein, incessamment sous peu, donc d'ici à une semaine. Les petits, ils veulent voir des petits animaux.
In Vivo sur RCFM vous emmène visiter à Dinoud, la première ferme pédagogique de Haute-Corse. Visite de ce lieu convivial et familial situé sur la commune de Borgo, dans la région bastiaise.
Ici, 1200 piquets plantés à la main et à la masse, baramine et masse, 1,5 km de grillage, 90 kg de campillons, 270 mètres linéaires de planches à découper, 600 palettes d'épiotées. Alors on va vous faire découvrir les oies. Donc là actuellement nous avons 5 oies. Donc dans les 5 oies nous avons 2 jarres et 3 oies. Parce que le mari s'appelle les oies. Alors le petit c'est les oisons. Nous espérons en avoir cette année. Alors là la période de ponte n'a pas encore démarré. Elle va démarrer, chez certains elle a démarré, mais chez nous elle démarre plus généralement au mois de mars. Une oie par an pond environ 5 œufs. Un œuf d'oie représente environ 5 œufs de poule. Donc on aura très peu de petits, hein, donc au maximum 15 petits oisons. Le petit de l'oie s'appelle l'oison. On espère en avoir pour montrer un peu et pour agrandir un petit peu notre cheptel. Parce que le but du jeu, c'est de produire des animaux pour continuer. Et pas l'intérêt n'est pas de les vendre, mais c'est pour continuer et perpétuer. Et pour avoir la fierté d'avoir ses propres animaux. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi, parce qu'il y a des choses un peu chez les éleveurs chez qui on achète qui me déplaisent un petit peu. Là, c'est pas le cas des hommes, et je vous montrerai un exemple marquant après chez le dindon. Maintenant, on se dirige sur l'enclos des cochons. Donc, actuellement, nous avons 3 cochons. Alors, nous avons Nair, qui est un cochon, bon, soi-disant corse, mais qui ressemble, qui est plus atypique, qui ressemble plus à un sanglier qu'à un cochon corse. Georges, le papa là-bas. Alors Georges, pour la petite histoire, il est petit, gros, moche, vietnamien. Il a réussi à faire des beaux bébés à Nair, qui est une belle corse sauvage. Donc comme quoi le racisme n'existe que chez l'être humain et pas du tout chez les animaux, quoi. Des fois, on ferait mieux de s'inspirer des animaux que plutôt qu'écouter les êtres humains. Et au final, quand on voit le métissage, comme souvent dans le métissage, ça donne des enfants très, 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 très beaux. Est-ce que vous savez combien de temps est la gestation des cochons? C'est assez marrant à retenir. C'est une règle de 3. Alors, il n'y a pas que la règle de 3 en maths, il y a la règle de 3 aussi chez les cochons. Donc, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la nature qui l'a voulu ainsi. Et les cochons font à peu près une dizaine de petits porcelets pas portés. Alors tous ces porcelets, il faut les castrer rapidement parce que sinon on a des problèmes de consanguinité. Nous, on en donne à certaines personnes qui nous demandent. Et sinon, on va agrandir un peu notre châtel pour essayer de monter à 6-7 cochons. Donc on va sélectionner ceux qui nous semblent les plus beaux. Et à partir de ce moment-là, Georges, qui jusque-là était notre mâle reproducteur, donc Georges, c'est un verra. Et Georges deviendra un cochon parce qu'il passera par la castration pour plus avoir de petits. On reprendra des petits chez des éleveurs, on en rachètera plus tard pour montrer aux enfants un peu les cochons. Mais on va essayer d'éviter trop la consanguinité. Donc le cochon, comme vous voyez, il adore, enfin la radio ça va être un peu difficile, mais il adore manger dans la boue. D'ailleurs, c'est le seul endroit où il y a de la boue dans sa porcherie. Il y a un dicton en Corse qui dit « ou porc et mendier route et dormir à chou ». Donc ça doit bien venir de là, Ça doit bien venir de là. Et ça fait des grandes siestes. Alors voilà, là, pour les enfants, c'est un peu malheureux parce que c'est l'heure de la sieste. Ils ont bien mangé, ils ont le ventre bien rompu. Bon, il y a toujours le mâle qui mange encore un petit peu, mais les deux femelles, elles en profitent pour faire une sieste. On espère une naissance. Qui sait, peut-être en direct. Comment elle prépare la naissance? Elle prépare le lieu où elle va mettre bas, ce qu'on appelle un chaudron. Alors nous, on aurait aimé qu'elle mette bas dans la porcherie parce qu'on est toujours soucieux que les petits aient froid. Et vous avez vu qu'on a mis plein de paille dans la porcherie. Toute cette paille se retrouve par terre. Elle se donne un mal fou à la transporter pour créer un espace qui s'appelle donc le chaudron. Qui est une sphère pour accueillir les petits. Donc a priori, ils naîtront dehors parce que les deux ont pris place dans les endroits bien distincts. Donc on a la plus grosse nère au fond et sa fille qui est devant. Normalement, ça devrait arriver là et on verra les petits nombres. Alors les petits porcelets, c'est un enfer à vivre pour nous. Parce que malgré qu'on a fait des super clôtures, qu'on a essayé d'enfoncer le grillage au plus profond dans la terre, les porcelets arrivent à se faufiler toujours. Donc jusqu'à quand ils font une certaine taille, les visiteurs ont la joie de voir des petits cochons passer entre leurs jambes tout au long de la journée. D'ailleurs, ça nous a fait quelques situations bien cocasses, notamment à l'anniversaire de ma fille la dernière au mois d'avril. Bon, ils se sont régalés du gâteau, quoi. Nous, moi. Nous, moi. Alors après, il y a l'enclos des chèvres. Donc les chèvres, nous avons 8 chèvres qui ont fait 5 petits et très beaux cabris cette année. Donc ils sont nés il y a un mois. Donc c'est des chèvres, c'est des croisements, étant donné que c'est des chèvres qui nous sont venus par des dons de personnes qui les avaient, qui ne pouvaient plus s'en occuper. Donc nous, on les a recueillis. On aurait aimé avoir des chèvres corses. Mais alors, la problématique aussi des chèvres corses, c'est qu'elles ont un fort caractère, donc elles se sauvent en permanence. Cette clôture qui fait 1m30 n'aurait absolument pas suffi à les contenir. Or, c'est vrai que c'est des chèvres, donc il y a de la naine, il y a de la minaine, il y a du croisement avec de la sava. Donc elles ne produisent pas énormément de lait, elles ne produisent pas des grands cabris. Comme je vous ai dit précédemment, on n'est pas tenu à une production, on est simplement tenu à montrer et à démontrer aux enfants, donc tant mieux si les cabris restent plus petits il y a plus longtemps, même les adultes, comme cette chèvre-là, vous voyez qu'elle est très 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 petite, elle représente la moitié d'une chèvre corse qu'on a l'habitude de voir. Nous avons deux boucs, un bouc donc Savoie, Sparky, et un bouc nain Léon, qui est là. Donc on voit bien le bouc nain, la forme qu'il a, les cornes prédombérantes. Il est très beau. Et par contre, nous avons un bouc castré, qui est assez intéressant à observer. Donc c'est lui, c'est Oni là-bas, le marron. Et en fait, on voit bien que tout son côté masculin ne s'est pas développé, parce qu'elle a été castrée dès la naissance. Pareil, encore une fois, on veut bien avoir quelques naissances de cabris, mais on ne peut pas se permettre d'avoir des dizaines de cabris. Je me vois mal les tuer. voire ça me semble même impossible pour moi. Et je me vois mal vendre ces cabris à des personnes et pour qu'ils finissent au final à être replacés à quelques années après. Moi, je les considère plus comme des animaux de compagnie que comme des animaux de ferme. C'est l'avantage d'avoir un petit nombre. L'enclos à gauche, qui donne face aux chèvres, c'est l'enclos des chevaux et de la Nesse. La Nesse, elle a une histoire quand même. Donc, pour tous les bastiers qui ont pu profiter du marché de Bastia pendant des années, ont connu ce petit couple. Donc, c'était un petit couple qui, maintenant, sont bien vieux de maraîchers. Et c'était la Nesse avec laquelle il préparait tout son terrain. Alors lui, il a vieilli un petit peu, hein. Il a décidé de prendre sa retraite un peu prématurément à 92 ans. Donc on lui laisse grâce, hein. Il aurait pu pousser un petit peu, hein. Il a été un peu feignant. Enfin, c'est la boutade. Donc il a quand même travaillé jusqu'à 92 ans et il travaillait avec son ânesse qui lui permettait de labourer le terrain. Donc, il a décidé de nous la placer. Ça lui a déchiré le cœur, mais il a préféré nous la placer pour qu'on s'en occupe. Et ça se passe très bien. Donc, il revient la revoir régulièrement. Alors là, bien sûr, on va pas dire ce qu'on est en train de voir, mais c'est l'accouplement des canards. Et après, il va tomber sur le côté. Là, on a pu observer le bruit des différents canards. Ils ont des moyens de communication différents. Donc là, nous avons trois races, des mulards, des barbaries et des colverts. Et ils ont chacun une méthode de communication bien différente. Les colverts, c'est vraiment le coin-coin qu'on s'imagine donc du canard. Le mulard, lui, c'est un coin-coin, mais beaucoup plus discret, beaucoup plus étouffé que celui du colvert. Et le barbarie, c'est atypique, il met sa tête d'avant en arrière, tout en faisant un bruit comme si c'était un serpent qui crachait. Donc voilà, et là mon fils s'amuse à remettre de l'eau au canard, et dès qu'on met de l'eau propre au canard, ils vont directement plonger dans leur mare. Alors là on peut observer justement le canard qui est en plein état d'excitation, il crée sa crête, alors lui c'est un mâle de barbarie, et ce qui est marrant c'est qu'il reste chacun, donc il y a trois races et il y a trois clans. C'est assez hallucinant. On n'a pas de souci là chez les poules. Les poules se mélangent beaucoup mieux. En fait, le principe de la ferme, c'est l'observation. Venir ici pour faire le tour en 5 minutes et dire « ouais, j'ai vu tel et tel animal » n'a aucun intérêt. Vraiment, c'est vraiment un moment donné ou un autre, lâcher prise et devenir un peu contemplatif. De cette manière, on arrive devant un enclos et on observe comment ils vivent. Alors même si l'animal est posé en train de dormir, ben, il ne va pas dormir tout le temps. Peut-être que 2 minutes après, il va profiter, plonger dans l'eau pour se laver, aller communiquer avec ses congénères, jouer, parce que aussi les animaux jouent aussi. Ils vont venir interagir avec vous parce qu'ils ont besoin de l'humain. Ils savent que c'est la main qui les nourrit. Et pour eux, toutes les personnes qui visitent la ferme sont là aussi pour les nourrir. Donc ils vont venir un peu communiquer avec vous. Alors, la communication peut sembler un peu des fois différente et imperceptible, mais si on prend le temps de les observer, on comprend mieux. Il y a des personnes qui nous disent qu'on pourrait passer des journées complètes à observer et qu'on n'en aurait pas assez. Moi, je suis ici tous les jours et je peux vous dire que tous les jours, j'apprends du caractère de mes animaux, de tous les jours, je vois des comportements nouveaux et j'en suis tout le temps ébahi. Alors là, en plus, on arrive dans les périodes de reproduction pour certains, parce que le printemps a envie de venir, le printemps au bout de son nez, on le sent qu'il est là. Et on voit comment ça se comporte, on voit que les animaux là sont quand même beaucoup plus éveillés. On arrive dans la belle période, on voit que la végétation va reprendre. Et là, tout a envie de se mettre en place, toute la synergie a envie de se remettre en place. Et c'est beau de voir cette biodiversité. Et puis il faut pas oublier qu'on est quand même dans un espace boisé. Donc ça pour l'été c'est très agréable. Parce qu'on a des grandes périodes, des grands espaces d'ombre naturels et c'est assez confortable. et qu'on est à quoi 600 mètres de la voie rapide. On pensait, même moi, hein, je suis loutchanique, mais même ici, je passais jamais quand j'étais petit, en fait. Hein. Je me dis qu'en fait, on a quand même des pépites, même en pleine de Borgo de Loutchan, on a des pépites de nature qu'on connaît mal. Et à nous de savoir les mettre en valeur, tout ça. On va éviter que ça devienne des terrains avec des immeubles, donc à nous de les mettre en valeur. Et pour les mettre en valeur, il faut les travailler. Et pour les travailler, il faut se lever le matin tôt et ne pas regarder. Ne pas regarder où on en est. Travailler sans cesse et sans cesse. De toute façon, le monde ne s'est pas construit sans effort. Alors ici, on a nos poules qui sont pour moi les animaux les plus merveilleux de la ferme. Même si toutes les volailles donnent des œufs, mais elles ne les donnent pas à la même cadence que les poules. Donc les poules, c'est le seul animal que personne n'est obligé de tuer pour avoir à manger. Même si on ne peut pas manger ses œufs, ils font des œufs. Donc au pire, les œufs sont jetés. Donc on va leur faire honneur, on mange leurs œufs. Et les poules, c'est des animaux avec qui on peut avoir beaucoup d'échanges. Alors ça paraît bizarre aux gens de dire qu'on a des échanges avec les poules. Parce que tout le monde pense que faussement que les poules ne sont pas très intelligentes. Mais les poules, elles le sont beaucoup plus et elles ont un vrai échange. Bah, si vous venez le matin avec moi, vous voyez l'accueil qu'elles me font. Elles me font des câlins à leur manière, hein, mais c'est sûr. Mais il y a un vrai échange de sympathie avec elles. Elles sont toutes différentes. On a 7-8 races de poules à vous présenter ici. Et elles sont toutes différentes, elles ont toutes un caractère différent et surtout un physique vraiment atypique. On a la poule rousse la plus commune qui puisse exister là. Derrière, alors celle qui intrigue beaucoup de gens, c'est la Kounu, donc elle n'a pas de poils sur le cou. Alors beaucoup de gens me demandent si je les épile, alors j'ai pas une passion pour ça. Donc non, c'est la race qui veut ça. Nous avons de la UP hollandaise, nous avons des poules frisées, nous avons les céramies milanaises là, donc c'est la plus petite poule du monde ça, la céramie milanaise. D'ailleurs, c'est une éleveuse du côté de Follet qui est passionnée par cette race qui nous en a donné. Nous avons de la poule grise, nous avons de l'arco, on a de la batangue de Pékin, on a de la nègre soie, et on n'a qu'une toute petite collection. On a une arcos et une arocana. La arocana fait des œufs bleus. C'est assez marrant de voir des œufs bleus. C'est en fait, en Corse, on a l'habitude de manger que les œufs marrons. Mais il y a plein d'autres couleurs d'œufs. Il y a des œufs blancs, des œufs carrément chocolat, il y a des œufs bleus, il y a des œufs verts. Ils ont tous le même goût, hein. Enfin, pour moi, ils ont tous le même goût. Mais simplement, c'est dans nos habitudes de manger ça. Alors que, par exemple, on prend la poule, la Leghorn, elle fait des œufs d'un blanc immaculé qui sont merveilleusement beaux, quoi. Après, on se dirige vers les animaux les plus représentés en Corse en plaine. C'est les brebis. Et les brebis, c'est un animal assez sympathique. Alors, elle, par exemple, Nénette, elle est en grand manque d'amour parce que elle, c'était une agnelle qui a été récupérée de tout petit et élevée au Bribon par des particuliers. Et la voyant grandir, ils ont fait le choix douloureux de nous la laisser, parce que ils se rendaient bien compte que une brebis seule, sans ses congénères, elle est pas très heureuse, malgré qu'il est élevé et qu'ils lui ont donné tout l'amour nécessaire. Donc elle vient ici. Nero, c'est notre première production. C'est le premier qu'on a eu à nous de naissance avec sa mère là-bas, qu'on a appelé Mama. On s'est pas trop embêté pour le nom, là, pour le coup, hein. Mais cette année, j'ai pas d'agneau. Alors, on m'a dit, alors je sais pas si c'est une boutade ou si c'est la réalité, parce que tout bonnement, j'ai pas tondu mes brebis l'année dernière, et donc ça empêcherait la reproduction. Alors, on a Pépito, lui, c'est un bélier aussi, qui a été mis de côté parce qu'il a, vous voyez, il a une corne cassée. Bon. C'est pas grave, hein. Moi ça, je le trouve mignon quand même. Hein. Et, même si sa corne ne poussera pas tout à fait, moi je le trouve bien beau. Un Pépito, celle de droite. Et voilà. Alors les enfants de tout à l'heure nous posent la question pourquoi les animaux ont ces petits trucs jaunes qui pendent à leurs oreilles. Donc ça, c'est des bagues d'identification. Parce que pour pouvoir avoir des animaux et des animaux de ferme, il faut se déclarer en tant que détenteur auprès de la chambre d'agriculture, hein, c'est obligatoire, hein, même si on n'a qu'un cochon ou qu'une brebis. Et le seul moyen de reconnaître les bêtes, parce que tout à l'heure vous me posez la question savoir si comment on faisait d'un point de vue sanitaire, le seul moyen de faire venir un vétérinaire, c'est qu'il ait ses bagues, de les reconnaître. On a un suivi, on a un prélèvement fait une fois par an, savoir s'ils ont telle ou telle autre maladie. Et là, c'est la CTC après qui nous répond directement, qui nous dit vos animaux sont en bonne ou mauvaise santé. Et après, à nous de prendre des dispositions s'ils sont en mauvaise santé. Bon, pour le moment, tout va bien. Et donc, c'est une identification obligatoire pour tous les animaux. Alors, les poules, non. Les poules, c'est des bagues, mais on n'est pas vraiment obligé. Mais tout ce qui est cochon, chèvre. Alors, les ânes et chevaux, c'est différent. C'est une puce, hein, parce qu'une bague, c'est vrai, ça serait vraiment pas beau du tout. D'ailleurs, ça se fait des situations un peu cocasses. La première fois qu'on a dû mettre une bague, heureusement qu'il y a un berger qui nous a montré. On savait pas comment faire. Donc, voilà. Et voilà le principe de la ferme. Alors là, vous me prenez, c'est mon oncle qui vient me voir avec ses amis. Et ils viennent me voir régulièrement, savoir comment je vais. Ils me donnent des précieux conseils parce qu'il est berger. Donc il me donne des précieux conseils. Je bois tout ça, c'est encore un témoin du passé. Et heureusement qu'il est là. Vraiment heureusement qu'il est là. Je sais pas si vous avez entendu le bruit de ces canards qui est vraiment différent des autres. Alors quand je parle du sauvetage des animaux, ça a été même jusqu'aux chiens, hein, c'est un sauvetage SPA. Beau comme il est, il s'est retrouvé abandonné parce qu'il avait la gale. Donc la SPA l'a soigné et après nous l'ont placé gentiment ici. Alors là on se dirige vers mon animal préféré. Je sais pas pourquoi, mais c'est Obama. Obama c'est notre dindon. Donc dindon, fidèle supporter du Sporting. Qui à chaque fois qu'un enfant crie fort à Bastille, lui répond bien goulûment. Et le dindon, en fait, pourquoi c'est mon animal préféré? Parce que le premier aspect des gens, c'est il est pas beau, c'est moche, c'est ci, c'est ça. Et il suffit qu'on fasse une petite explication, donc comme on a fait tout à l'heure, de pourquoi il a ces couleurs-là, de pourquoi il a ça, pourquoi ça pend et tout, que le dindon, il nous semble moins moche et généralement, après, les gens s'y intéressent. Je voulais vous parler tout à l'heure, je parlais quand on était au niveau des oies, de pourquoi je voudrais produire moi mes propres animaux. Alors nous avons deux dindons mâles hein, qui est chez les poules, Rossé et Obama qui est là. Vous voyez que Obama en fait il a une aile complète et l'autre aile qui a été amputée de la dernière phalange. Toutes les volailles peuvent voler hein, ou planer comme on peut le dire. Et au lieu de couper les plumes, donc les plumes ça repousse, on les coupe comme des cheveux, une ou deux fois par an, on préfère les amputer, donc les mutiler, hein, tout bonnement, d'une première phalange. Il a bien fallu qu'on achète nos premiers exemplaires, hein, parce que le renard, on en avait un couple avant, mais le renard les a trouvés vachement bien à son goût. Donc on a été les acheter, puis regardez, il est malheureusement mutilé. Hein, donc on voit bien que d'un côté, il n'a pas l'aile, hein, son côté gauche, il n'a pas d'aile. Alors que le côté droit, il a son aile complète, qui est d'ailleurs très très belle. Donc voilà un peu comment sont l'état des éleveurs en France. J'en suis un peu malheureux quoi. Donc c'est pour ça qu'on veut produire pour avoir des animaux vraiment bien. Par contre il a une super belle roue, alors pas aussi belle que celle du Pan, je suis d'accord, mais une super belle roue qui présente un beau plumage bien cuivré. Des couleurs magnifiques sur la tête. Si on outrepasse la texture qui peut sembler un peu guite ou quoi que ce soit, en fait, on se rend compte que c'est très doux, très chaud, pas du tout guite et qu'il présente des couleurs variantes et très belles. Et il vous fait le beau. Hein. Là, quand il fait ces petits bruits-là.
Voilà. Là, ça veut dire vraiment, là, il est au summum de sa beauté.
Et les derniers animaux de la ferme qu'on va présenter là, c'est les lapins. Les lapins, c'est les plus problématiques, bizarrement. C'est les plus faciles à obtenir, mais c'est les plus problématiques. C'est très fragile et c'est très difficile à garder dans un terrier. Donc, on est obligé de grillager en dessous la terre, sur les côtés, de mettre des petites mailles. de faire des clapiers pour que la femelle puisse se réfugier et lui donner à manger très régulièrement. Alors, c'est un animal que les enfants adorent parce qu'il paraît plus accessible, mais c'est vraiment un animal très compliqué à obtenir. Après, on voulait pas, c'est facile à tenir dans un clapier, mais il est hors de question pour nous d'enfermer un animal dans un clapier pour le plaisir de qui que ce soit. Les enfants, je préfère qu'ils ne voient pas de lapin plutôt que voir un lapin enfermé dans un clapier. Donc, on en a que deux. On a que Pierre là et qu'une petite femelle qui est là-haut, qui elle trouve refuge dans le clapier, mais de son propre gré, hein. Mais on ne reste que sur ces deux-là, parce que le reste, soit décède de maladie, soit pendant un moment, ils avaient réussi à se sauver. Mais on n'a que ça. Donc voilà pour nos animaux. Et après, donc il y aura la partie maraîchage plus tard, mais ça, vous reviendrez.
In Vivo sur RCFM vous emmène visiter à Dinouda, la première ferme pédagogique de Haute-Corse. Visite de ce lieu convivial et familial situé sur la commune de Borgo, dans la région bastiaise.
Alors aujourd'hui, nous accueillons un centre de loisirs, donc il y a une cinquantaine d'enfants répartis entre 3 ans et 10 ans. Justement, on va leur faire une petite visite guidée. On a déjà fait deux précédemment. Là, je vais en faire deux avec, dont une avec vous, j'espère. Alors, les enfants, déjà, leur faire comprendre que les animaux, ils ont leur caractère, que chaque animal est intéressant, qu'ils ne sont pas que beaux ou que moches. Il suffit de les connaître. Leur faire comprendre que chez les animaux, ils ne font pas la différence, qu'ils soient petits, grands, ils ne font pas de différence pour eux. C'est un être à part entière. Après, on aime leur faire changer d'avis sur certains principes et essayer qu'ils fassent déjà la différence entre chèvre, brebis, mouton, savoir ce que c'est un mouton, savoir ce que c'est un bélier, savoir ce que c'est un bouc, un cochon, parce que un cochon par exemple c'est un verra castré, il y en a plein qui ne le savent pas. Il y a souvent l'âge, on adapte souvent l'âge, quand c'est les petits c'est vraiment de la découverte. Découverte par le jeu, hein, parce que les enfants, il faut les faire jouer, il faut tenir leur attention là-dedans. Et les grands, on les fait jouer quand même, mais on essaye un peu plus de sensibiliser, et les sensibiliser aussi un petit peu, alors quand ils font l'atelier nourrissage, de voir un peu tout ce gâchis, et voir que ce gâchis peut être nécessaire et utile.
Allez-y les enfants.
Wow. Alors, j'essaye de choper le chien, parce que lui, il essaie.
Mais il y a un truc gros, c'est quoi?
D'après toi.
Un dinde.
Et voilà. Les grands, venez, propose-le la main plus. Alors, comment on fait pour attraper une poule quand on est nombreux? Comment on fait d'après vous? Non, on ne les piège pas. On n'est pas là pour faire mal aux animaux. Non, d'abord, il faut faire
un travail d'équipe et on se met en cercle et après on se met d'accord et on attrape la poule.
Voilà, on ne court pas, on ne crie pas, simplement on travaille en équipe. Alors, je vais demander à ma fille d'aller sortir les poules qui sont en dessous. Elle va les sortir.
Je la mets où maintenant?
Ma
petite poulette.
Passer dans la gratte.
Et il faut pas. Et il faut pas. Voilà. Alors attends, elle est là.
Il y en a.
On va la lâcher pour faire l'exercice avec les copains. 1, 2, 3. Alors les garçons, les filles. Allez, pop. On ne court pas, on se... Attendez.
Elle est mignonne.
Alors, je vais l'amener là-bas. On se met en cercle. On fait un cercle. Oh, bah d'accord. Ah, bah, là, Venez voir les enfants. Qu'est-ce que ça fait les poules? Non.
Je vois pas.
Non, moi aussi, je vois pas.
Comment elles pondent les œufs?
Par les fesses.
Bah oui. Alors voyez quand même, combien il y en a des œufs là?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
10. 12. 3 et 3, 6. Et 3, 9 et 2, 11. Il y en a bien 11. Eh, regardez, c'est quand même merveilleux. Moi, ce soir, je vais avoir 11 œufs quand même. Et les œufs, les poules, il suffit de leur donner à boire, à manger, un peu d'amour et elles nous donnent des œufs. C'est magnifique quand même.
Mais après, il y a des poussins dedans.
Pas tout le temps.
Ah bon?
Que si les poules, elles les
pondent. Quand maman, elle est casse, j'ai peur qu'il y ait des poussins dedans. Non, mais la dernière fois, ça a fait une forme trop bizarre.
Mais là, c'est quand il a les coques.
Comment on connaît qu'il y a des poussins? Si la poule reste assise longtemps dessus, il ne faut pas aller prendre les œufs.
Slash, tu peux les prendre parce qu'elle les couve pas. Donc si tu as les œufs, ils sont pas. Elle les couve pas. Donc je peux les prendre.
La dernière fois, chez une amie, avait une poule, elle était restée longtemps sur
les œufs.
Oui.
Et ça fait des bébés.
Ben en fait, on l'avait pas vue parce qu'elle était tellement restée longtemps qu'on revenait plus la voir.
Ah bon?
Oui.
Et après, tu sais pas ce qui est arrivé?
Ah non.
Oh dommage. Allez, on referme que c'est comme ça, elles peuvent aller pondre. J'appelle les chèvres et quand je dis Léla, vous ouvrez le portail.
Regardez, mais si vous
d'accord, parce que sinon avant de sortir, vous allez comprendre.
On va pas ouvrir le portail, reculez, allez là-bas.
Ah mais j'ai peur, comment je leur
dis? Tu peux insister là, mais avant pas de faire mal.
Ah là, on est dans l'enclos des chèvres et c'est l'enclos où il y a le plus d'euphorie parce que bon, elles sont très dociles et ils leur donnent donc du granone et du maïs. Et il y a les petits cabris. Tenez les enfants.
Tiens.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Ah, ben il y a quelqu'un.
Elle ne mord pas, j'aurais pas vu.
Elle ne mord pas, car je les prends.
Deux secondes, ma fille. Bon, plus ça ne sert à rien. T'assure, mon grand.
Tiens, mais...
Maintenant, prenez votre temps, les enfants. Touchez les cabris, prenez votre temps. Mais oui, ils mangent pas trop. Alors que les grandes, elles mangent beaucoup.
C'est là qu'on voit pas les cornes, elles commencent à revoir.
Ah ben oui, parce qu'elles commencent à grandir. Il y a un problème dans l'agriculture encore, c'est que les gens ils pensent que c'est un métier, je sais pas ce qu'ils s'imaginent, ils s'imaginent que les agriculteurs sont inabordables, que c'est un métier qu'ils veulent garder secret, alors que c'est pas du tout ça, c'est simplement des gens qui sont trop pris dans leur quotidien de travail pour se permettre de pouvoir recevoir du public et qui n'ont pas forcément le temps non plus de le recevoir. Donc nous, on veut présenter l'agriculture sans être des vrais agriculteurs. Moi, je suis pas soumis à un quota de lait, de produire du lait ou de produire de la viande avec les cabris. Moi, j'ai que les bons côtés, en gros, du métier d'agriculteur. Et ce que j'ai envie, ce qu'on a envie avec mon épouse, c'est par ce métier, montrer qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre tout au long de l'année pour nous nourrir et de montrer un peu c'est quoi leur métier. Et après, on aurait envie que les enfants, maintenant, ayant une première approche simpliste comme ça et pédagogique, et plus envie d'aller à l'approche d'agriculteurs et de leur poser des vraies questions sur leur vrai métier au quotidien. Nous ici c'est facile, c'est un petit enclos où on a quelques chèvres, on n'a pas les contraintes d'aller les mettre en pâturage, d'aller faire la traite du matin, la traite du soir, de produire du fromage et de le vendre, parce qu'une fois qu'on le produit, il faut le vendre le fromage. Ou par exemple chez les cochons, de sélectionner les aliments pour que la viande soit bonne, pour pouvoir faire de la charcuterie, de se battre pour avoir un AOP ou un AOC de faire face à des prix de vente des fois ridicules qui ne leur permettent pas de vivre. Nous, on aimerait que les agriculteurs puissent recevoir ce public-là ou viennent intervenir chez nous pour montrer ce que c'est leur vrai métier. Nous, c'est juste un petit support. C'est ni plus ni moins qu'un dépliant de ce que c'est l'agriculture en Corse. Dans un dépliant, on ne peut pas tout mettre et on ne voit pas tous les mauvais côtés. Et c'est déjà une bonne approche, les dépliants. Mais voilà, nous, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on aimerait faire donc une forge associative, parce que les couteliers, il y en a quelques-uns qui sont en périphérie de Bastia ou de Calvi, qu'on peut aller voir, mais les trois quarts des couteliers, ils sont perdus dans leur village, et on voit pas le tout travail. Ils savent pas que quand ils vendent un couteau, à quel prix, ça représente tant de temps de travail, tant de temps de recherche, tant de temps d'exécution, et qu'ils ont besoin de manger aussi, à un moment donné, qu'ils font pas ça que par plaisir. Pareillement, pour l'agriculture, donc le maraîchage qu'on va faire, on a bien conscience qu'il y a des personnes qui n'ont pas ni l'envie, ni le temps, ni l'espace de faire pousser des légumes, mais qui ont, avec ou sans enfants, envie de voir comment ça pousse et envie de ramasser leurs légumes parce que ça procure un certain plaisir. C'est tout à fait d'actualité de se rapprocher de la nature. Et aussi, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des légumes. Donc nous, dès lors qu'on n'est plus dans les dictats des calibres de fruits et de légumes,
on va pouvoir vendre moins cher. Et surtout que la main-d'œuvre, en fait, c'est les gens qui vont venir ramasser, qui font notre main-d'œuvre. Donc ils pourront acheter moins cher donc pour les personnes à faible revenu, et ils pourront acheter des légumes, on espère, de qualité pour les personnes qui en font le choix. Et pareillement, tout ça, ça pourrait, ils pourraient comprendre un peu plus que pour ramasser de quoi manger dans la semaine, ça représente tant de temps, et qu'ils comprendront un peu plus pourquoi les légumes se vendent à tel et tel prix. On veut faire un microcosmos et montrer aussi que sur 1,7 hectare, on peut être autosuffisant en nourriture. On n'est pas dans une idéologie hippie, loin de là, parce que ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on n'est pas comme ça, l'idéologie hippie à vivre en autarcie. Nous, on est vraiment dans l'esprit d'ouverture et de démontrer, de montrer ce que c'est. Regardez, c'est pas beau ça, ces enfants. À qui, avant de rentrer, j'ai peur, et qui maintenant... Ils sont avec les chèvres, ils se soucient même pas du bouc qui est à côté, à qui peut représenter une crainte. Ils sont simplement dans la découverte et dans le plaisir. Ils vont rentrer chez eux, ils vont sentir la ferme, ils en sont contents. Mais vous allez en sortir la ferme après. Tout à la machine à laver. Et donc voilà, alors le premier délire, prochain délire. Outre le fait des constructions, donc c'est faire cette forge associative pour en espérant et bon se rapprocher un peu d'eux, que les syndicats des couteliers corses puissent venir faire des démonstrations pour montrer que voilà que c'est un métier d'art ce qu'ils font et un métier mal connu. Et après on a d'autres délires sur des méthodes de culture innovantes. On aimerait s'essayer à l'aquaponie. Alors l'aquaponie c'est la combinaison de l'aquaculture avec donc on élève des truites dans un bassin. Ces truites, donc l'eau détruite sert à alimenter des plantes. Donc en circuit fermé, ça les racines nettoient l'eau et ainsi de suite. Alors c'est un peu des cultures alternatives, mais ça c'est notre côté avec mon épouse qui essayons d'avoir une vision un peu plus lointaine de l'agriculture et qui nous donne envie de faire ça. On se plantera peut-être ou pas, mais on essaiera. Donc là on va à l'approche des chèvres. Pour rapprocher les chèvres au plus près, rien de tel que leur donner à manger parce qu'elles sont très gourmandes. Donc on les appâte facilement avec des grains de maïs. On permet aux enfants de prendre ces grains de maïs et d'avoir les chèvres qui viennent manger en fait dans leurs mains, qu'ils puissent sentir la sensation donc d'une bouche de chèvre, de voir que c'est un animal très docile. Ça leur permet aussi de pouvoir captiver l'attention des cabris et de pouvoir les prendre dans les bras. Vous savez, un cabri c'est quand même très beau comme animal. Donc ils en profitent, ils peuvent leur faire des câlins. Alors les garçons aussi se prêtent au jeu des câlins. Il n'y a pas que les filles. Il n'y a pas que les filles. Et aussi, on arrive à enlever la crainte qu'ils peuvent avoir des boucs avec leurs grandes cornes, leur grande posture, qui peuvent des fois être impressionnants. Ils se rendent compte que quand on vient, qu'on leur donne un peu à manger, ils se laissent très aisément caresser par la suite. Et on peut même faire des petits jeux avec eux. Alors la seule crainte, c'est qu'on n'arrive pas à faire entrer encore les enfants dans l'enclos des cochons. Parce que c'est quand même des sacrées bêtes. Et donc on rentre pas dans tous les enclos. Hein. Par exemple, les canards, les oies, il y a des bassins. J'ai pas envie qu'il y ait un enfant qui tombe dans l'eau et qui passe sa journée trempé. La ponette et l'âne, pareillement, on rentre pas parce que c'est une ânesse à la retraite et une ponette à la retraite. Donc elles sont pas là pour être montées. Et puis il y a des rats qui font bien mieux que moi ça. Donc nous ici, simplement pour montrer, on rentre pas dans leur cours, c'est dans leur domaine. J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un de beauté. Après, c'est plaisant de voir ces enfants courir après tous ces animaux, essayer de comprendre comment ça fonctionne. De voir des enfants qui essayent de planter quelques légumes sur les cornes pour décorer les chèvres, les pauvres subissent. Qu'est-ce que vous voulez? Faut bien qu'ils jouent, mais c'est pas méchant non plus. Et là, on a envoyé notre cochon corse, de la DDTM. Bon, il a plus une tête de sanglier que de cochon, mais bon. C'est un cochon corse qui est en train de préparer ce chaudron. Alors le chaudron, c'est l'endroit où elle va faire ses petits. Tu sais toutes les chèvres que tu vois là, oui. À part les petites, c'est des gens qui les avaient pris à leur maison et qui se sont rendus compte que les chèvres, elles étaient malheureuses à la maison et qui ont préféré nous les laisser pour qu'elles aient une meilleure vie.
Ah oui, ça c'est sûr.
Alors pourquoi tu auras envie de l'acheter? Viens, va voir
tu peux venir de temps en temps ici, ou sinon tu peux aller voir des éleveurs, pour qu'ils te les fassent toucher quand il y en a des cabris. C'est avec plaisir qu'ils te les feront toucher.
Mais moi j'ai pas peur.
Mais en fait, il faut juste que tu t'assoies et dès qu'elle est vers toi, tu l'attrapes.
Est-ce que je peux l'avoir?
Mais il y en a qui l'attrapent.
Prends ma place. Prends ma place.
Ah mais c'est quoi ce truc?
T'as touché quoi?
Mais en fait,
déjà, vous croyez qu'ils ont déjà des cornes?
Bah oui, mais c'est petit.
C'est pas. Ah ouais. Est-ce que c'est un garçon ou une fille?
Une fille.
Pourquoi?
Un mâle.
Est-ce que tu préfères les filles?
C'est un mâle.
Est-ce que tu préférais que ça soit une fille?
Non, parce qu'en fait,
c'est là que c'est une fille, t'as raison. Allez, assieds-toi, toi qui as peur.
Non.
C'est un cabri.
Comment elle s'appelle, la mienne?
Kavia.
Aïe, attends, j'ai mal pris.
Ben oui, parce que t'as peur. Une main au-dessus, une main en-dessous.
Voilà, la mienne, encore.
Voilà.
Voilà.
Ben voilà, j'ai réussi mon pari. Maintenant, t'as plus peur.
Mais c'est mignon, le cabri.
Ouais. Non. Attends, passe à moi.
Les projets donc à l'immédiat et à très court terme, c'est donc la, comme j'ai dit, la création de la passerelle qui va permettre d'arriver aux handicapés de venir accéder à notre ferme. Donc pour pas les exclure. Après, c'est se spécialiser un peu plus, faire des ateliers pédagogiques un peu mieux développés avec tout ce qui est autisme, parce que c'est des personnes qui ont très peu de possibilités. On fait des programmes à l'année. Alors le problème de l'autisme, c'est qu'il a fallu déjà comprendre qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. C'est déjà assez délicat à comprendre, surtout quand on n'est pas professionnel, et vraiment faire un gros travail avec eux. Après, c'est essayer de rendre rentable cette ferme, donc la rendre rentable, c'est-à-dire pouvoir développer un peu mieux l'aspect à proprement parler ferme pédagogique, avec recevoir plus de monde en semaine, les week-ends sont déjà bien chargés, et vraiment peaufiner notre espace de culture. Nous cherchons à développer ça d'une manière intelligente. Nous cherchons aussi à améliorer donc les systèmes d'accueil, donc en paysageant un peu mieux, en décorant un peu mieux. On voudrait ouvrir vers de la petite restauration, mais alors pas de la petite restauration, j'ai pas envie de faire des kebabs ou des tacos, vraiment de la restauration vis-à-vis des produits de la ferme. Donc ça sera surtout des légumes grillés, hein. C'est pas que je sois végétarien, mais c'est qu'on voudrait proposer des produits frais de qualité. Je me vois mal encore tuer une poule pour la servir aux enfants, j'en suis pas capable. Mais par contre, on pourrait mettre en valeur justement tous ces produits et leur apprendre à manger des légumes pour ceux qui n'y arrivent pas. Quoique, hein, la génération actuelle, je vois ce que j'obtiens, il y a beaucoup d'enfants qui aiment manger des légumes, de plus en plus et heureusement. Après, on aimerait aller dans des rapports sociaux un peu plus poussés, faire des rencontres musicales, des rencontres à thème. Là, au mois de mai, nous allons recevoir en stage pendant 3 jours une école bilingue du Pays Basque qui fait un BTS agronome. Donc, ils vont venir en stage découverte ici à la ferme. Alors déjà d'une, ça va leur permettre de découvrir la Corse. Et pendant ce stage, on a déjà préparé des rencontres avec des jeunes chanteurs insulaires. Essayer de faire des petits concours de chansons pour taquiner et changer sur différents points de vue. Alors sur le point de vue de l'agriculture, partir de ça, mais sur un peu tout. Nous aimerons faire des ateliers contes et légendes. Nous aimerons vraiment, vraiment travailler sur le bilinguisme. Alors, travailler sur le bilinguisme, ça m'appartient déjà dans un sens de me forcer de parler le plus possible corse, malgré que j'ai quelques difficultés, et d'avoir un public réceptif. Alors, le public réceptif, ça vient des éducateurs et de nous, parents. À nous de nous efforcer, même si on parle mal, à nous de nous efforcer de parler corse à nos enfants. Alors pourquoi le bilinguisme? Parce que tout ce qu'on a autour de nous a un nom en corse. Hein. C'est une langue, hein. c'est pas un dialecte, c'est pas un patois. Hein. Il y a tout et ça serait à promouvoir, ça serait là-dedans. Et pourquoi pas, comme je l'ai dit précédemment, que des agriculteurs prennent contact avec nous, ou nous qui prenons contact avec eux, pour qu'ils descendent et qu'ils puissent parler vraiment aux enfants qui, vous avez vu, sont quand même très 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 attentifs à ce qu'on peut dire, qui parlent de leur quotidien.
C'était In Vivo sur RCFM, consacré à la ferme pédagogique Adinoud, située à Borgo. Une prise de son signée Serge Jakubowski.
In Vivo, à réécouter en podcast sur bleurcfm.fr.